Radio TerraZen, la web radio qui vous éveille à la vie en toute simplicité. Bonjour à chacun, bonjour à tous. Donc nous sommes en direct à Bien-être au quotidien. Donc nous sommes deux, on change pas les bonnes équipes. Donc Amadi est là, qui travaille avec moi, avec qui on fait des stages. On fait des stages ensemble, Amadi est médium et magnétiseur. Et donc moi je suis, comme vous me connaissez, Catherine Beau, je suis prof de yoga et thérapeute ayurvédique. Donc, nous allons commencer par chanter un mantra, hein, dans la tradition indienne. Donc, on va chanter le mantra à l'hommage à Ganesh. Donc, vous pouvez le chanter avec nous, avec plaisir. Hari Om Shri Ganeshaya Namaha. Allez, on y va. Hari Om Shri Ganeshaya Namaha. Om Sahana Vavatu. Om Sahana Vavatu. Sahana Bhunaktu. Sahana Bhunaktu. Sahavyam Kavavahai. Sahavyam Kavavahai. Tejasvinavaditamastu Mavidvisavahai. Tejasvina vaditamastuma vidvisavahai. Om Shanti, Shanti, Shanti. Donc c'est un mantra à l'honneur de Ganesh. Donc Ganesh est le dieu de la connaissance, de l'intelligence, qui enlève tous les obstacles sur le chemin. Et autrement, donc le mantra qu'on a chanté, c'est en fait pour unir en fait nos forces entre les gens qui écoutent et l'enseignant, pour qu'il y ait une énergie qui se tourne vers l'étude, là je traduis hein, le sanskrit, et qu'il n'y ait pas de conflit entre nous, hein, ce qu'on dit à la fin. Et Shanti, bien sûr, c'est la paix en sanskrit. Donc Amadi, qui est auprès de moi, il va me poser peut-être les questions que vous posez, hein, à propos, déjà... Pour les personnes qui viennent pour la première fois, on va faire un petit bilan. Donc voilà, Amadi, est-ce que voilà, je t'écoute et puis.
D'accord. Alors bonjour à toutes et à tous. Bah, heureux de vous retrouver et de retrouver Catherine. Donc ce que je vais demander à Catherine déjà pour la première question, c'est un petit rappel de ce qu'est un dosha.
Voilà. Alors un rappel de ce qu'est un dosha. Alors d'abord. Je vais peut-être redire aussi par rapport à l'Ayurveda. Donc l'Ayurveda, c'est une, je le répète, hein, c'est la médecine de l'Inde. C'est une médecine qui est à la fois préventive et curative. Un bon médecin ayurvédique, en fait, n'a pas de malade parce qu'il prévient toutes les maladies. Et en Inde, dans les villages, un bon médecin ayurvédique était payé que quand il n'avait pas de malade. Quand il avait des malades, en fait, on lui réduisait son salaire de moitié. Et si tout le village était malade, eh bien, il changeait de métier, quoi, en fait.
Il faudrait rapporter un peu ça par ici, je trouve.
Donc, voilà. Donc, c'est une médecine qui arrive depuis 5000 ans. Et effectivement, je vais venir au dosha tout de suite. Mais c'est pour dire qu'il y a une organisation différente de notre médecine allopathique. Et c'est vrai que dans la médecine ayurvédique, pour être médecin ayurvédique, il y a au moins 5 ans et demi d'études et puis après des stages, des spécialisations. Donc ce que je vais vous expliquer aujourd'hui, les doshas, même si je passe une heure sur chaque dosha, eh bien ça se comprend bien en 2 ou 3 ans. Hein, donc je vais essayer d'être le plus clair possible, mais peut-être que vous n'allez pas tout comprendre et c'est normal. Donc, je vais essayer de répondre à la question d'Amadi parce que c'est aujourd'hui, Je voudrais aborder, la dernière fois on avait abordé le dosha Vata et aujourd'hui le dosha Pitta. Alors, qu'est-ce que c'est que le dosha? C'est vraiment la base de l'Ayurveda. Donc, une des classifications de l'Ayurveda, c'est ce qu'on appelle Pancha Bhuta, c'est-à-dire les cinq grands éléments. Les cinq grands éléments, vous avez les cinq grands éléments, c'est les cinq éléments naturels, hein, qui sont l'éther, c'est-à-dire le vide, après l'air, le vide en mouvement qui donne l'air, après vous avez le feu, l'eau et la terre. Et ces cinq éléments, en fait, on va les retrouver dans tout être vivant, dans tout être, même dans les plantes, dans les aliments. Et donc, c'est ça qui va amener à ce qu'on appelle les unités fonctionnelles du corps, qui sont les doshas. Hein, unités fonctionnelles du corps ou les énergies. Hein. Donc, si on prend... La dernière fois, je vous ai expliqué avec Amadi, on vous a expliqué ce que c'était Gvata. Et Vata, donc, ça vient de ces deux premiers éléments, parce qu'on les met par deux, les éléments naturels qui sont l'air et l'éther. Hein. Et on avait dit pour Vata, hein, cette unité fonctionnelle, que c'était air et éther, vous pouvez imaginer. L'éther, donc, c'est le vide, l'air, c'est le... L'air, il y a le mouvement, donc dans Vata, c'est toujours le mouvement qui est là. Donc, quelqu'un qui va être plus Vata, qui va avoir ce dosha prédominant dans sa structure, va être quelqu'un qui va être assez instable, qui va être assez aérien, qui va être très sensible. Et ce qu'on avait dit aussi, c'est que en fait, on avait ces trois unités en nous, et après, c'était proportionnel. Donc, par exemple, c'était toute une histoire de proportion. Donc, dès la naissance, par nos parents, on pouvait avoir cette structure avec un vata prédominant, hein, le premier dosha, ou cette première unité fonctionnelle du corps. Donc, on avait expliqué vata. Vous pouvez revenir à cette émission précédente. Voilà.
Donc, tu disais, on a les trois doshas, mais voilà. Il faut que les proportions, en fait, soient le plus équilibrées possible.
C'est ça. Alors, en fait, à la naissance, on va, par exemple, en lien avec nos parents, on va être, par exemple, plus vata. Si on est plus vata, et puis ta kappa, plus réduit. Donc, ce qui est important, eh bien, c'est essayer que ce vata n'augmente pas plus. Parce qu'autrement, on va avoir vraiment un déséquilibre. En fait, il faut que Vata soit un peu plus haut que les autres, mais pas dans des proportions énormes, en fait. Et en Ayurveda, quand il y a une de ces trois unités fonctionnelles en déséquilibre, en excès ou en manque, eh bien, c'est à ce moment-là que la maladie peut arriver. Et en Ayurveda, ils vont essayer d'équilibrer, en fait, ces unités fonctionnelles. Est-ce que c'est clair, Amadi?
Jusqu'à là, je te suis. J'avais une question. Si, par exemple, une personne est Vata et elle a le Vata beaucoup trop haut, oui. Le but, c'est quand même d'augmenter les deux autres pour arriver à réduire la différence entre les trois, en fait.
Alors, le but, ça va être de réduire d'abord le dosha ou l'unité qui est en excès. Et effectivement, tu as raison d'augmenter les autres. Mais d'abord, on va se concentrer sur réduire. On va faire les deux. Ça va être un jeu sur les deux, quoi. Pour arriver à l'équilibre.
Ok. Donc, là, on va parler de Pitta.
Oui.
La première question. Où se trouve-t-il dans le corps? Parce que tu m'as bien expliqué qu'en fait, que chaque dosha était situé à un endroit du corps.
Exactement.
Où il était prédominant dans l'endroit du corps.
Voilà. Et ça va amener dans... En fait, des organes qui sont plus fragiles ou parce que on va dire qu'il y a plus de vata ou plus de pitta. Alors, je reprends quand même. Donc, on a trois éléments, trois unités fonctionnelles qui sont air et terre avec vata, air en priorité, pitta, feu et eau, Et le dernier qu'on verra à la prochaine émission, qui est Kappa. Kappa, c'est terre et eau. Hein, donc, avec eau en priorité. Hein, et Pitta, celui qu'on va voir aujourd'hui, Pitta, ça va être feu et eau. Alors, c'est celui qui est avec un feu dominant. Alors, avec un feu dominant, donc où est-ce qu'on va le voir le plus dans le corps, cet élément? Alors, ça va être le feu, donc ça va être Pitta. On avait vu que Vata, c'était le mouvement. Pitta, ça va être la transformation. Alors, la transformation, ça va être tout ce qui est transformation au niveau de l'assimilation, de la digestion, du métabolisme, de la régulation thermique aussi. Donc, ça va être pour la digestion, bien sûr, dans l'estomac, dans l'intestin grêle, dans le foie, le pancréas, la lymphe, la sueur, vésicule biliaire et les yeux. Et quelqu'un qui a un excès de pitta, on va le voir à ses yeux. Parce que ses yeux, il va avoir en général un regard très perçant. Il va y avoir du feu dans ses yeux. Donc ça, c'est pour les, vous avez compris, pour les organes où on peut trouver pitta. Voilà, est-ce que, voilà, tu as certainement plein de questions parce que faut imaginer des gens qui ne connaissent pas du tout l'Ayurveda et ils entendent pour la première fois parler de pitta. Feu et eau, hein, et de transformation.
En fait, feu et eau, c'est quand même un peu contraire, mais oui, tout c'est à fait. Que ça m'échappe un peu.
Non, mais c'est juste ce que tu dis. C'est vrai que pitta, c'est pas si facile, et on va voir que quelqu'un qui a beaucoup de pitta, beaucoup de feu, plus que les autres doshas, plus que les autres unités, va être quelqu'un qui peut être très colérique, parce qu'il y a un peu cet antagonisme en lui, à la fois le feu et l'eau, mais c'est de l'eau chaude toujours.
Hein?
Ce qui caractérise Pitta, c'est la chaleur. Hein? Et on remarque quelqu'un qui est Pitta, moi je connais des gens dans ma famille qui sont Pitta, ils arrivent chez moi en plein hiver, ils sont avec un t-shirt et ils disent qu'il fait trop chaud. Moi je suis Vata, donc j'ai du Vata et du Pitta, mais Vata, moi je suis frileuse. Donc voilà, le Pitta, c'est le feu, c'est la chaleur. Et donc, on peut voir Pitta, on a dit la digestion, dans la deuxième partie du corps. On peut dire que Vata, c'est le bas du corps, Pitta, c'est le milieu du corps, et Kappa, c'est le haut du corps. Vas-y, à partir de ce que j'ai dit là, est-ce que tu as d'autres questions?
Oui, donc tu disais que quelqu'un qui était Pitta allait avoir tendance à être colérique, mais ça, c'est en cas de déséquilibre ou tout le temps? Enfin, je peux imaginer que quelqu'un qui est Pitta et qui est vraiment... Pitta, en fait, oui. Si c'est bien équilibré, ça va plutôt être de l'énergie ou non?
Alors,
ou est-ce qu'il va être plus énergique s'il est mieux équilibré? C'est la question, en fait.
C'est, voilà, non, si c'est juste ce que tu dis. Alors, si Pitta est en équilibre, ça va être quelqu'un qui va être... Alors, qui va avoir de l'énergie, ça c'est sûr. Quelqu'un avec de... Pitta qui a, par exemple, un Pitta qui a... Ça veut dire quoi, un Pitta? Ça veut dire... feu et eau plus fort que les autres, c'est en priorité. Eh bien, si quelqu'un est plus pitta, il va avoir plus d'énergie, ça c'est sûr. C'est quelqu'un qui va être dans le mouvement. On avait dit que quelqu'un qui était vata, c'était souvent l'artiste. Celui qui va être pitta, c'est souvent celui qui est dans l'action, donc ça va être l'entrepreneur. Ça va être le chef d'entreprise. Mais s'il a un pitta déséquilibré, c'est là où on va voir de la colère arriver. On va voir de la haine, on va voir de l'insatisfaction, de la destruction. Pitta aussi peut être beaucoup dans la rivalité. Pitta, il a toujours besoin de compétition. Hein, moi, quelquefois, je vois des gens arriver chez moi au yoga et je leur dis, bon... écoutez-vous, n'allez pas trop loin, n'allez pas trop vite. Et si c'est un vrai pitta, avec un pitta peut-être un peu en excès, eh bien, il va forcer. Hein, même, moi, je me souviens de quelqu'un qui avait mal au dos, je lui disais, allez doucement. Ça n'avait aucune importance pour lui. Il allait beaucoup plus fort. Il était dans la compétition même par rapport à lui-même. Il a toujours envie d'être le premier quelque part, quoi. Et de montrer qu'il est le premier et il y a une énergie très forte et très grande.
Pour avoir été un peu pita, je peux t'expliquer ce que tu dis là.
Vas-y.
C'est que si tu me disais de ne pas forcer, j'ai l'impression de ne pas travailler. En fait.
Voilà. Voilà, c'est ça. Le pita...
Et du coup, on se sent l'envie tout le temps de pousser là, la limite.
Voilà,
enfin,
c'est ça.
De la repousser même.
Voilà, de repousser ses limites. Tout à fait. Hein? Et un pita en déséquilibre, alors ça va être vraiment dans l'excès, quoi. Et ça va être... Moi, j'ai vécu aussi avec des gens qui étaient pita. Eh bien, quand ils étaient vraiment dans l'excès, c'était des gens qui étaient dans la colère, c'était des gens qui n'avaient aucune patience, très impatients, qui vont très vite. En général, ils sont intelligents, les pita. Ils comprennent très vite. Hein? Ça, il n'y a pas de souci. Mais ils comprennent très vite, mais ils n'acceptent pas que les autres n'aillent pas à leur rythme. Donc, ils peuvent être intolérants, ils peuvent être insatisfaits, ils peuvent être très désagréables. Je dirais sans jugement, mais... en fait, à vivre, c'est pas facile de vivre avec un pita en excès, quoi. Voilà. Est-ce que tu as d'autres questions ?
Mais je m'y retrouve bien dans cette histoire de feu, parce que bon, maintenant j'ai un peu équilibré, j'avoue. Ouais. Mais voilà, mes sports, c'était les arts martiaux, la boxe. Mes métiers, c'était faire des rondes de nuit ou de la sécurité, courir partout, courir tout le temps. Ouais. Créer l'entreprise, je l'ai fait aussi, mais fallait suivre, sinon ça m'allait pas.
Voilà,
et ça, je l'ai fait très très longtemps. Je peux même te dire, au début, on ne s'en rend pas compte, mais c'est après, on dit, mais c'est usant ce qu'on fait. C'est usant. Voilà.
Et c'est très juste ce que tu dis, Amadi, c'est usant. Et ce qui... en fait, pour Vata, on avait vu que ce qui guettait Vata, si par exemple, il n'avait pas une hygiène de vie, s'il n'avait pas des activités comme la méditation, comme le yoga, c'était la dépression. Ouais, il peut être enthousiaste et dépressif, le Vata. Ce qui guette le Pitta, qui est dans l'excès d'action et qui est énervé, et qui se met des défis toujours, créer des entreprises, tout ça, eh bien, c'est le burn-out.
Oui, et comme tu dis, la dépression, parce que en fait, c'est qu'on n'y arrive pas. Quand on pousse et qu'on voit que ça avance pas, eh bien, ça nous... On voilà. Se met en dépression, comme tu dis.
Exactement. Alors,
il faut que ça marche.
Voilà, il faut que ça marche parce que Pita est assez orgueilleux, même. Voilà, Pita a un côté quand même un petit peu orgueilleux. Et si ça ne va pas, il n'accepte pas. Et donc, il a un besoin de pouvoir aussi. Et si ça ne va pas, il peut être soit en burn-out, mais le burn-out, c'est aussi un peu lié à la dépression. Burn-out, dépressif. Et moi, je vois beaucoup, par exemple, de gens... avec beaucoup, beaucoup de responsabilités, qui ont un rythme d'enfer et qui viennent me voir et qui n'en peuvent plus et qui sont obligés de tout arrêter ou de travailler avec une limitation. Parce que, et c'est très difficile pour eux en général parce que le pita a du mal à ne rien faire.
Oui, et puis on a tendance à ignorer les signaux du corps, etc. C'est tout le temps.
Voilà, et ça c'est vraiment caractéristique oui, du pita. Qui n'écoutent pas les messages du corps, qui n'écoutent rien, et qui foncent tête baissée, et à un moment donné, c'est cool.
Mais oui, c'est jusqu'à ce qu'on craque, vraiment,
voilà.
Souvent.
Juste, voilà, et ça, c'est le pita fonceur, voilà, oui, tout à fait, tout à fait, tout à fait, tout à fait. Voilà, alors ça, c'est une présentation sommaire du pita, on va revenir après sur les caractéristiques. Est-ce que tu as des questions à me poser, là, comme ça
Non, mais en fait, à part que je m'y retrouvais très bien, en fait, t'as un peu tout décrit. C'est comme tu venais de décrire ma vie, là, en partant de l'un à l'autre. Mais oui, les caractéristiques m'intéressent parce que je suis sûre qu'on va en trouver plein d'autres.
Alors, les caractéristiques de Pita. Alors, Pita, en fait, on avait dit que Vata, il était très grand, très petit et assez longiligne. Pita, lui, il est de taille et aussi stature moyenne, régulière. Il peut être sportif, Pita, comme il a de l'énergie. Toi, par exemple, tu dis que tu avais fait des arts martiaux.
Longtemps, très longtemps.
Très longtemps.
Une bonne vingtaine d'années.
Et ça, c'est vraiment caractéristique de Pita, parce que c'est à la fois l'énergie, et puis la compétition, et puis se défier. Après, en général, ils ont, Pita, une peau mixte, des cheveux fins, un regard perçant. On voit Pita au regard. Voilà, les gens qui viennent chez moi... Le Vata, je vais voir quelqu'un pas trop ancré. Pita, en revanche, il a assez le sens de la réalité. Il a un regard perçant, il a un nez moyen, il a un bon appétit, une grande capacité digestive, en tout cas au début de sa vie. Il a un bon feu digestif, mais ça, on verra.
Je confirme qu'après ça baisse.
Et après ça baisse, hein, c'est vrai.
Mmh, bien sûr.
Et ça, il faut faire attention parce qu'on peut être pita, donc on se dit, oh là là, on est feu, et au début on peut manger tout ce qu'on veut, et on digère bien, et on ne grossit pas, et même si on ne mange pas des aliments de très bonne qualité, on n'est pas malade. Et puis après, le feu digestif, on est toujours pita, mais le feu digestif peut baisser. Et on l'avait dit ça, le feu digestif est essentiel. En Ayurveda, la maladie vient quelquefois d'une mauvaise digestion. Donc Pitta, en début de vie, a une très bonne capacité de digestion. Pitta, en général, la personne qui est Pitta, ça veut dire qu'il y a plus de Pitta que les autres doshas, a un sommeil profond et réparateur. Autrement, les caractéristiques physiques maintenant. Alors, si c'est en déséquilibre, on peut voir une peau très sensible. Toujours des rougeurs, des problèmes de peau, de coups de soleil, des cheveux grisonnants avant l'âge, une calvitie précoce, une sensibilité au niveau des yeux, sensibilité des gencives, grincement des dents, les aphtes, herpès labial, les brûlures d'estomac, les diarrhées, transpiration abondante, hypertension. Tout ça, pitta, et un pitta en déséquilibre. Après, pour les caractéristiques psychologiques. Alors, on a dit que les doshas, c'est d'abord l'unité fonctionnelle du corps. Donc, on voit d'abord au niveau physique, mais on peut en déduire un côté psychologique. Donc, pour Pitta, il va être clair, il va être pertinent, il va être intuitif, volontaire, ambitieux, efficace, précis, organisé, convaincant, perfectionniste, responsable, persévérant, c'est un leader. Hein. Incontestablement, c'est le leader, Pitta. Il sait s'imposer, il est cartésien, et il sait s'imposer par la force de ses arguments, par la force physique, il sait s'imposer. Il sait concrétiser, hein, l'inverse de Vata qui a du mal à concrétiser. Lui, il a des idées et concrétise. Il peut avoir un humour caustique, il a un talent oratoire, il aime prendre des responsabilités, c'est un bon gestionnaire. Alors, caractéristiques psychologiques en déséquilibre, il va être colérique, irritable, critique. Voilà, il y a le moindre problème, allez, le pita, il le voit tout de suite. Hein.
Oui, puis on s'enflamme vite. Hein.
Et puis il s'enflamme, voilà. Il s'enflamme, il y a le feu quoi à l'intérieur. Il peut être orgueilleux, il peut être fier, tyrannique, dominateur, jaloux, goût pour la vengeance, égocentrique. Alors, est-ce que, voilà, on n'a pas tout le temps toutes les caractéristiques? Est-ce que tu te reconnais dans le pita? Alors toi, tu peux expliquer ce qui s'est passé pour toi, ou tu peux l'expliquer maintenant. Ça peut faire comprendre pas mal de choses.
En fait, j'étais très pita, à part l'égocentrisme, tout le reste y est. Hein.
Voilà.
tout le reste y est.
Oui, à part l'égocentrisme.
Et je suis passé kappa, justement, au bout d'une dizaine d'années de méditation, de travail sur moi, aussi bien personnel que spirituel. Et vraiment, ça m'a posé. Mais du coup, comme tu dis, le feu digestif, il n'est plus là. Donc, j'ai pris du poids, on s'élargit. Mais par contre, on se calme et ça fait un bien. On n'a plus envie de toujours pousser à la limite.
Voilà, c'est ça.
Et en fait, parce que quand on commençait quelque chose, il fallait le finir. Allez. Peu importe.
Voilà, aller jusqu'au bout.
Voilà. Et du coup, on prend un peu de lâcher prise et on se dit, voilà, ça va se passer, mais mieux. Bizarrement, et ça se passe mieux.
Voilà, exactement. Et c'est intéressant, Kadam a dit, c'est pour ça que je lui ai demandé de venir là ce soir. C'est parce que, en fait, et c'est vrai, moi je l'ai connu même avant quand il était pita. Et c'est vrai qu'avec tout le travail qu'il a fait sur lui, avec la méditation, le magnétisme, tout ça, hein, aussi ton travail sur les énergies, eh bien, il est devenu son kappa à monter. Donc, à la naissance, peut-être il était pitta kappa, et maintenant il est devenu kappa pitta. Et t'es plus kappa même, et ton pitta est bien descendu maintenant.
Oui, je suis beaucoup plus pitta. Ce qui me paraît me caractériser aussi, c'était l'impatience, c'était permanent.
Voilà.
Non seulement il fallait que ça arrive, mais que ça arrive vite.
Voilà,
et du coup,
ça
peut être un côté très très frustrant.
Voilà.
De quand on n'arrive pas au bout de ces choses.
Voilà.
Et justement, le fait de devenir capable d'apprendre à se poser, de la méditation, et même pour le magnétisme, en fait, pour que ça passe, il faut quand même être zen.
Oui.
Si t'es énervé, tout ça, c'est des blocages. Hein. Du coup, tu te dis, tiens, ça passe plus. Et donc, par la force des choses, on s'y met, et on voit que ça passe tellement mieux, et que ça arrive au bon moment, etc. Et plus ça se passe comme ça, et plus on va dans cette voie-là, justement.
Voilà.
Et au bout d'un moment, on fait, mais j'ai déconné pendant longtemps.
Alors, en même temps, ce que je pense, c'est que tu as maintenant les qualités du Pitta, peut-être. Tu as encore l'organisation.
Ah oui, oui, bien sûr.
Voilà, tu es encore quelqu'un qui a les pieds sur terre.
J'ai appris à trier et garder la bonne partie. Voilà. Mais c'est qu'au début, on ne le voit pas, ça.
Voilà.
C'est qu'à force de ça, on se dit, mais oui, il y a quand même, oui, il y a des côtés très positifs dans le Pitta, je confirme.
Voilà. Et donc, ce que j'ai envie de dire aussi, rapidement, j'en ai déjà parlé, c'est les gunas. Les gunas, c'est en fait... donc, les doshas, on a vu, c'est plus au niveau physique. Et bien sûr, même s'il y a des caractéristiques psychologiques. Et les gunas, c'est plus... Ça se manifeste au niveau mental de l'individu. Et c'est en fonction du style de vie et de l'alimentation. Et on peut... Alors, il y a trois gunas qui sont sattva, rajas et tamas. Sattva, c'est tout ce qui nous élève. Hein. Il n'y a pas de jugement. Vous pouvez sentir que quelquefois votre énergie s'élève. Par exemple, ça peut être par la musique. Amadi l'a dit par la méditation. Et donc, si un bon pitta qui trouve les activités qui l'élèvent, qui élèvent son énergie, qui élèvent sa sensibilité, eh bien, il va devenir sage, il va devenir compréhensif, il va devenir humble. Hein. Et en même temps, on peut voir chez Amadi, il y a le kapha qui est monté et son pitta qui s'est équilibré et qui est devenu beaucoup plus sattvique par ton style de vie et puis aussi ton alimentation.
Oui, j'ai beaucoup changé d'alimentation, déjà devenu beaucoup plus végétarien, même si je ne le suis pas complètement. Je craque encore sur un petit morceau de viande. Mais bon, ça va être une fois tous les 15 jours. Avant, je ne savais pas ce qu'était un légume pendant très longtemps. Hein.
Je ne connaissais pas les légumes.
Non, non. Il fallait un poulet en entier, mais rien autour. Ça, j'adore.
Alors, vous voyez, par exemple, cette alimentation-là où on mange beaucoup de viande, tous les excitants augmentent le pitta. Donc, obligatoirement, il avait un pitta très haut. Et un pitta, à la limite, rajasique ou tamasique. Hein, on a dit sattvique, c'est ce qui élève. Donc, une nourriture sattvique, c'est une nourriture fraîche de saison. De saison sans réfrigérateur. En Inde, on n'avait pas de frigidaire. On faisait la cuisine au fur et à mesure, hein, même si on était 20 ou 25 dans l'ashram. Et puis, sur le lieu, on ne va pas prendre des aliments qui viennent de loin. Donc, c'est vraiment peu de viande, surtout pour le pitta. Mais l'Ayurveda n'est pas forcément végétarien. Hein, mais il y a beaucoup de gens qui sont dans l'Ayurveda qui sont végétariens, mais pas obligatoire, parce qu'on aime bien les aliments qui sont vivants, quoi, en fait. Donc voilà, pour un pitta sattvique. Après un pitta rajasique, rajas, c'est, par exemple, c'est une nourriture de la viande qui est fraîche, mais qui a pu rester un petit peu dans le réfrigérateur. Rajasique, c'est le sport, c'est beaucoup le mouvement. Alors là, Pitta avec Rajas en plus, il va être dans la compétition, dans la rivalité, besoin de pouvoir, dans l'arrogance. Et puis après, Tamas, en fait, c'est ce qui est plus glauque, en fait. C'est que ce soit la nourriture avariée, que ce soit des activités ou des excitants, ou une vie pas très saine, et bien à ce moment-là, c'est la colère, l'insatisfaction, ou quelque chose de speed, la destruction, la jalousie. Le médecin ayurvédique, elle m'avait dit de ne pas répéter, mais j'adorais son exemple, c'était si vous prenez un chai avec du lait végétal, c'est sattvique. Vous prenez un chai avec du lait végétal, un chai avec du lait de vache, c'est rajasique, et vous avez une bouche dedans. Alors là, c'est tamasique. Si vous buvez l'ensemble, c'est tamasique. Vous voyez là...
Explique quand même ce qu'est un chai.
Ah oui, un chai, oui, pour moi, c'est évident. C'est le thé indien. Alors, c'est du thé qui est fait avec... Alors, le lait de vache en Inde, les vaches, elles sont à côté de chez nous et elles sont bien, comment dire, elles sont protégées, elles ont des bons aliments, on allait chercher... Comment ?
Et bien traitées aussi.
Elles sont vraiment bien traitées, donc on peut prendre avec le lait de vache. Après, ils mettent de la cardamome. Ils mettent aussi un peu de gingembre ou ils mettent clou de girofle. Ils mettent des épices qui apaisent le côté indigeste du lait de vache. Et puis, voilà. Voilà. Et puis, il y a toute une technique pour faire le chai. Donc, c'est un thé indien qui est délicieux. Mais on peut le faire avec du lait végétal aussi. Voilà. Alors, on revient un petit peu à Pita. Vas-y, vas-y.
Je voulais juste reposer une question sur la nourriture, donc ayurvédique. Par exemple, un plat qu'on prépare doit être mangé dans la journée, pas le lendemain.
Voilà, c'est ça. Pour la nourriture ayurvédique, en fait, c'est ce qui est important dans la nourriture ayurvédique, c'est l'intention. Hein. L'intention, c'est que la personne fasse le plat, prépare le plat avec amour. Après, l'intention dans la on mange le plat, c'est-à-dire si on se dispute, c'est vaut mieux pas manger, vaut mieux faire autre chose. Ça sert à rien, on va mal digérer. Et puis l'important aussi de manger tout de suite, parce qu'on a mis des bonnes intentions, donc on mange dans la foulée, quoi, avec ces bonnes intentions que la cuisinière a mis ou le cuisinier a mis dans la nourriture. On n'attend pas. Ça c'est important dans l'Ayurveda, et de ne pas trop manger. On mange beaucoup trop en Occident. On mange trop, on se remplit, on calme nos angoisses par la nourriture, et on a du mal après à digérer. La digestion est tellement importante, et donc les Pitta, eux, ils digèrent quelquefois un peu mieux, ils ont un bon feu digestif. Mais ça n'empêche que quelquefois ils peuvent manger en excès, et puis quand ils passent un certain âge, ils grossissent, quoi, en fait.
Je ne sais pas si c'est le cas de tous les Pitta, mais j'étais un spécialiste de l'excès, en fait.
Voilà.
J'adorais les extrêmes.
Ouais, mais ça, Pitta, souvent, il est dans l'excès. Ça, c'est sûr. Pitta, souvent, il ne se mesure pas et il va dans l'excès, ouais. Ça, c'est sûr. Alors, est-ce que tu as d'autres questions? Parce qu'il y a plein de choses qu'il y a à dire encore, hein, mais. On va peut-être pas tout dire, on dit l'essentiel pour que vous sentiez un peu cette énergie de Pitta. Et comme je vous ai dit, on a besoin de 2-3 ans pour bien comprendre les doshas, les énergies, les unités fonctionnelles. Vas-y, si tu as d'autres questions.
Juste sur les gunas, en fait, donc tu as sattvic, c'est ce qui élève, donc
oui.
Tout ce qui est positif. Après, c'était...
Rajasic, c'est dans le mouvement.
D'accord.
Hein, et puis après, c'est tamasique, ça, c'est ce qui descend un peu l'énergie.
Oui, c'est le côté négatif de
voilà.
Tout ça et qui va plomber, en fait.
Voilà, mais on a ces 3 gunas en nous. Et on a besoin, si on est trop sattvique, on va peut-être manquer de pieds sur terre, quoi. On n'a pas assez les pieds sur terre.
C'est comme les 2 chats, c'est une question d'équilibre, en fait, entre les 3.
Exactement.
D'accord.
Et à la limite, on peut aussi avoir un lien avec les 2 chats. Sattva, c'est plus Vata, Raja, c'est plus Pitta. Et Tamas, c'est plus Kapha, quoi, en fait. Hein.
Ok, je comprends.
C'est clair. Les Rajas, les Gunas, c'est vraiment très, très important. Et c'est aussi en lien, les gens qui font du yoga, hein, c'est tout ce qui... C'est dans le Samkhya, donc c'est dans la philosophie à la fois de l'Ayurveda et du yoga. Et c'est pour ça que je dis souvent, et j'ai même une émission, en disant que le yoga et l'Ayurveda sont 2 sœurs jumelles. On ne peut pas faire du yoga sans faire de l'Ayurveda, on ne peut pas faire de l'Ayurveda sans faire du yoga. Vas-y, on continue, on est toujours sur Pitta.
D'accord.
D'autres questions, vas-y.
Encore un peu sur l'alimentation quand même.
D'accord.
Est-ce qu'il y a par exemple, des aliments qui vont, parce que je me rappelle qu'on l'avait fait pour Vata,
ouais.
Qui vont aller mieux pour un Pitta et des choses qu'il faut qu'il évite.
Voilà. Alors, Pitta, vous avez compris qu'il y a du feu. Et on avait dit que dans tout... Alors, en Ayurveda, il y a 6 saveurs. Et dans la nourriture, il va y avoir les éléments, hein, les 5 éléments. On va les retrouver dans les aliments. Donc, je reprends les 6 saveurs dont j'ai parlé la dernière fois. Donc, la saveur douce, où il y a terre et eau. Donc, la saveur douce, on dit aussi douce ou sucrée. En sanskrit, c'est madhura. Alors, ça, on va le trouver dans le lait, dans le beurre, la crème, les graisses, le sucre de canne, le raisin, les dattes, le miel, les asperges, les céréales, les œufs. Donc, cette saveur douce, elle va apporter quelque chose pour nourrir le corps. Il y a terre et eau, donc ça va être bon pour Pitta. Toutes les saveurs douces, tout ce que j'ai nommé tout à l'heure, va faire baisser Pitta. Parce qu'il y a terre et eau.
Je ne pensais pas que le sucré, justement, allait faire baisser Pitta.
Alors, attention.
Je raisonne énergie, sucre, en fait.
Voilà. Alors, attention, c'est juste ce que tu dis, Amadi. Sucre, il faut pas... C'est du sucre... C'est du sucre dans les aliments comme des fruits, par exemple.
Oui, les fruits. Oui.
Voilà, c'est pas le sucre raffiné.
Mais de toute façon, ce truc-là, faut l'éviter tout le temps.
Faut l'éviter tout le temps. Mais tout ce qui est... Il y a beaucoup de sucre dans plein d'aliments, mais pour Pita, on peut en prendre un peu. De toute façon, le sucre est mauvais. Hein. Ça, c'est clair, le sucre est mauvais, dans le sens où... bon, voilà, c'est ça augmente... comment dire, ça, on dit que il y a certaines personnes qui disent que c'est un ingrédient pour le cancer, c'est ça amène beaucoup de gras, ça, c'est pas bon du tout le sucre. Mais des sucres naturels pour Pita peut, c'est bon pour Pita, ça va le faire baisser parce que dans la saveur douce, il y a terre et eau. Et attention, la saveur douce, ce n'est pas que le sucre. Alors autrement, donc la première saveur, c'est saveur douce, terre et eau. Après, on a la saveur aigre-acide qui est feu et eau. Alors, si vous avez du feu, ça va augmenter Pita. Donc, on a vu que la saveur douce Madura va faire baisser Pita. La saveur aigre-acide, au contraire, va augmenter Pita parce que aigre-acide, alors tout ce qui a de l'acidité, de l'aigreur, va augmenter Pita. La mangue, le citron, l'ananas, la tomate, le vin, le vinaigre. Tous les excitants, de toute façon, vont augmenter Pita. Mais saveur aigre-acide va augmenter Pita. La saveur salée. Salée, on a de l'eau et du feu. Donc, tous les sels, le gomasio, le tamari, va augmenter Pita. Après, la saveur piquante. Vous avez feu et air dans la saveur piquante. Donc, poivre, radis, ail, coriandre, oignon... piment, alors j'ai mis urine, hein, et tout ça va augmenter Pita.
Donc en fait, c'est les choses qu'un Pita devrait éviter.
Voilà, okay. Alors qu'un Pita devrait éviter, mais l'Ayurveda, il y a beaucoup de bon sens. En tout cas, moi j'étais avec un médecin ayurvédique qui a amené beaucoup de bon sens dans la nourriture, et quelquefois il y a des gens qui viennent me voir avec toute une liste, et disent, j'ai trouvé ça dans un livre, faut pas que je mange, il faut pas que je mange ça, tout ça. Et la personne, elle ne sait plus quoi faire, plus quoi manger, elle se stresse avec la nourriture. Non, il faut vraiment avoir du bon sens par rapport à la nourriture. Bien sûr, ne pas manger en excès. Essayer de diminuer par deux. En Europe, on mange beaucoup trop. Pour avoir digéré plus facilement. Prendre des bons espaces après chaque repas pour ne pas être toujours en train de digérer. Mais autrement, on sait que le sel va augmenter Pita, on sait que les excitants vont augmenter Pita, aigre acide parce qu'il y a du feu vont augmenter Pita, et piquant vont augmenter Pita. Les autres saveurs, comme la saveur astringente avec les haricots secs, les lentilles, les fruits verts, vont baisser Pita parce qu'il y a de l'air plus terre. Et la saveur douce fait baisser Pita. Et puis aussi la saveur amère, avec le cumin, noix de muscade, le persil, fait baisser Pita. Voilà. Alors, j'ai été un peu vite. Vous pouvez retrouver ça, les six saveurs, dans tout bon livre ayurvédique, mais surtout, ne regardez pas les listes et ne vous enfermez pas dans les listes. Et essayez d'avoir un petit peu de bon sens et de sentir aussi, expérimenter. Par exemple, quelqu'un qui est Pita, ça, tu vas pouvoir le dire, elle m'a dit. Si quelqu'un qui est Pita et qui prend des excitants, que ce soit l'alcool, que ce soit la théine, que ce soit le café, eh bien, ça doit augmenter le Pita.
Oui, et c'est pas forcément bon. C'est
voilà.
À éviter. Enfin, surtout en excès, comme pour tout ce que tu disais tout à l'heure.
Voilà.
C'est pas tellement éviter cette chose, je pense, mais plutôt éviter l'excès.
Exactement.
Dedans.
Merci, Amadi. C'est très juste ce que tu dis. Voilà, c'est très juste. Vous pouvez prendre un peu, par exemple, de salé ou d'acide ou de piquant, mais surtout pas en excès et ne mangez pas que ça. Autrement, votre Pita va augmenter. Si votre Pita augmente, vous allez être énervé, impatient, colérique, jaloux. Vous n'allez pas être heureux. Vous n'allez pas être bien du tout. Donc, regardez votre nourriture, c'est important. Et ne mangez pas trop et ne mangez pas tout le temps. Laissez un temps. Quelquefois, en Ayurveda, on dit que c'est bien de manger, par exemple, à 6h30 le soir. Comme ça, on ne remange pas avant le lendemain matin. Et on attend, on ne mange pas tout de suite le matin. Et donc, comme ça, on a une petite diète, quoi, en fait. On laisse un peu le corps en jachère. Voilà.
Oui.
Est-ce qu'il y a d'autres questions ?
Moi étant Pita...
Oui.
Je suis pétard, mais j'adore ce qui est épicé. Donc, je vais toujours en prendre un peu.
Voilà, mais exactement.
J'ai appris à éviter les excès, de ne pas en mettre partout.
Voilà, exactement. Et c'est vrai, quand on va en Inde, eh bien, alors, il y a beaucoup de personnes qui sont kapha aussi, surtout les femmes, mais il y a aussi beaucoup de pitas en Inde. Eh bien, ils mangent beaucoup d'épices. Parce que l'épice, c'est aussi c'est un antiseptique, quoi, en fait. Hein, ça évite les maladies. Mais le problème, c'est que ça augmente pitta. Et c'est vrai, quand on mange beaucoup d'épices, ça peut augmenter pitta. Donc, on peut en manger un peu d'épices, mais pas trop, quoi. Voilà. Est-ce que tu as d'autres questions? Par exemple, voilà. Voilà. Les temps...
Les temps.
Voilà. Quand est-ce que pitta va être en excès, quoi, en fait, hein? Quand est-ce que pitta... On avait vu qu'il y avait des temps de vata. Pour vata, par exemple, on avait dit que à l'automne, les deux débuts de l'hiver, c'était le temps de vata. On avait dit aussi... que dans la nuit à 2h du matin, là, c'est temps de vata. Entre 14h et 18h, c'était temps de vata.
Donc, pour si pitta, c'est, excuse-moi, oui, quand vas-y. Tu dis c'est du temps de vata, ça veut dire c'est là où il va être le mieux ou oui. C'est là où il faut qu'il évite de...
C'est là où il est le plus haut. C'est là où il est le plus haut. C'est là où, en fait, on va pouvoir avoir les éliminations avec vata. Hein?
D'accord.
Et c'est là, par exemple, si c'est à 2h du matin, un vata... qui a des problèmes de sommeil en général, il va se réveiller. Le pitta, lui, c'est en général au milieu de la journée ou au milieu de la nuit. Donc, c'est entre 10h et 14h. Donc, c'est pour ça qu'on demande de manger en Ayurveda vers 11h30 midi. Comme ça, on va pouvoir profiter que pitta soit plus haut pour la digestion. Donc, par exemple, si on ne pas manger à 14h, mais de manger à midi, et comme ça... la digestion va être là, va commencer. On va avoir d'abord le suc digestif et après on va avoir la digestion. Et pitta va être vraiment prédominant et va aider à la digestion. Et après, pitta arrive le soir à partir de 22h. Donc il faut vraiment avoir mangé avant 22h.
Donc pour un pitta, par exemple, les heures où pitta est le plus fort,
voilà.
Donc... comme un pitta est colérique, c'est peut-être à ce moment-là qu'il faut éviter de l'enquiquiner.
Ah, ça c'est sûr. Ah, ça c'est sûr.
C'est ce que je voulais comprendre.
Oui, c'est vrai. Il faut éviter de l'embêter de 10h à 14h et de 22h à 2h du matin. Ouais.
Parce que ça va être plus,
alors, le
va être
pitta,
plus réactif,
il va être
on va dire.
Plus réactif.
D'accord.
Et le pitta va être très réactif aussi dans la saison. Alors, on avait vu que pour le vata, c'était le début d'hiver, c'était l'automne. Et pour le pitta, c'est compréhensible, c'est pendant la chaleur. Donc, ça va être la fin du printemps, hein, et ça va être l'été. L'été, là, le pitta est le plus fort.
Oui, en même temps, pour un pitta, c'est là que je suis le mieux. Dès qu'il fait chaud, il y a du soleil, il faut que je...
c'est là tu te sens bien, là.
Oui,
voilà,
oh oui.
C'est là où tu te sens bien. Et en même temps, il y a des pittas qui ne supportent pas la chaleur. Qui ne supporte pas du tout la chaleur.
Oui, il y a peut-être aussi les origines, c'est pour ça. Je viens d'un pays très ensoleillé quand même.
Voilà, donc toi, tu la supportes. Mais c'est vrai que je connaissais... Et c'est vrai, par exemple, les Indiens supportent aussi très bien la chaleur, par exemple. Et même les pitas indiens, ils supportaient mieux la chaleur que moi. Mais c'est vrai que je connais, par exemple, des Européens pitas. Eh bien, ils ne supportent pas quand qu'il fait trop chaud, quoi. Ils vont dans des pays frais. Ils aiment la fraîcheur.
Et oui, justement, parce qu'ils sont tout le temps...
en ébullition.
Oui.
Ils sont toujours chauds.
Donc, s'ils ont chaud en plein hiver, imagine l'été.
Alors, l'été, c'est l'horreur, voilà.
Ça doit être un peu.
Voilà. Et autrement, c'est le temps donc, où on est en ébullition, on est impatient. Donc, vous allez comprendre facilement que c'est le temps de l'adolescence. Et de l'âge adulte jusqu'à la ménopause. On avait vu que Vata... c'était à la fin de sa vie qu'on était plus vata, on avait des problèmes articulaires, etc. Et pitta, c'est jusqu'à la ménopause où là, on est, voilà, on a cette énergie, on a... Alors, l'adolescence, là, c'est au plus fort et dans l'âge adulte aussi. Donc là, c'est les temps primordiaux pour pitta.
Heureusement que je suis devenue capa très vite et que j'ai pas eu à attendre la ménopause.
Oui, parce qu'il y a la ménopause aussi pour les hommes. Hein, ça se traduit différemment. Voilà, ça s'appelle autrement, mais voilà, exactement. Alors, est-ce que tu as d'autres questions que j'aurais pas bien dit, pas bien... vas-y.
Une fois, tu m'as parlé des sous-doshas. Est-ce que les sous-doshas, c'est les gunas? Ou est-ce que je me suis mélangée? Donc,
oui.
C'est encore autre chose.
Ouais. Bon, les sous-doshas, c'est les cinq types de pitta. Donc, on avait cinq vata et on va avoir cinq pitta. Alors, cinq pitta, c'est en lien avec les fonctions de pitta. Donc, les fonctions de pitta, j'en ai un peu parlé. Donc, c'est la digestion, le métabolisme, ça maintient la température du corps. Sensibilité au goût des aliments, sensible aux couleurs, les yeux, les perceptions visuelles, la chaleur, l'intelligence, le courage, curiosité, mémoire, logique. Tout ça, ce sont les fonctions de Pitta. Alors maintenant, on va voir les cinq. On va en fait, tout ça, c'est des organisations en fait, hein, et c'est pas les mêmes que dans la médecine allopathique. Et donc, vous allez voir, en Ayurveda, c'est vrai qu'il y a plein d'organisations, il y a plein de classements. Et donc, le classement des cinq doshas, c'est en fonction des fonctions de Pitta ou des fonctions du dosha. Donc, Pitta, il y a Panchaka Pitta, c'est la digestion, l'absorption des nutriments. Donc, Panchaka Pitta, c'est la première... fonction de Pitta, c'est la digestion. Après, donc ça c'est le premier sous-dosha. Deuxième sous-dosha, c'est Ranjaka Pitta, et là c'est la formation, la préservation du sang. Comment le sang se forme, et c'est pour ça que chez Pitta, par exemple, quand vous avez des problèmes de peau, tout ça, souvent c'est un excès de Pitta. Après,
le fait que j'ai la peau tout le temps trop sèche.
Alors ça peut être ça peut être Pitta, ça peut être Vata aussi. La peau sèche, la sécheresse, c'est aussi Pitta. Vata, parce que Pitta, c'est lustre de la peau. La peau, elle est plus lustrée avec Pitta. Mais c'est une peau quelquefois qui peut être rouge. Donc ça, la sécheresse, ça peut être Vata. Après, vous avez Sadaka Pitta, qui est lié au cœur. Hein, donc au bon fonctionnement du cœur. Après, vous avez Udana Vata. Alors, non, après vous avez Alochaka Pitta, qui est lié aux yeux, qui est lié à la vision, avoir une bonne vision. Et après Brajaka Pitta, qui est lié à la pigmentation de la peau. Donc, voilà. Donc, on a la peau, on a la vision, on a Udana Pitta, qui est Sadaka Pitta, qui est le cœur, aussi la mémoire. Et vous avez aussi Panchaka Pitta, la digestion, et Panchaka Pitta, la couleur du sang.
Quand tu dis le cœur, ça inclut aussi la circulation, en fait, ou non?
Oui, bien sûr.
D'accord. Bien sûr, moi, c'est pas trop évident de poser la question
non,
quand même.
Non, mais c'est vrai, tu as raison. C'est vrai, les sous-doshas, alors, j'avais quelque chose qui était intéressant par rapport aux sous-doshas. Je ne sais pas si je vais le retrouver. On voyait quand est-ce que les sous-doshas, quelquefois, étaient en dysfonctionnement. Les sous-doshas en dysfonctionnement ont amené beaucoup de problèmes, en fait. Hein. Si les sous-doshas, comme les doshas, quand ils sont en excès ou quand ils sont en excès ou en manque, eh bien, on peut voir, par exemple, Panchaka Pitta, on a dit que c'était la digestion. Un excès de Panchaka Pitta va entraîner la boulimie. Un manque va entraîner peu d'appétit. Ranjaka, on a dit, c'est le sang. On va voir un excès, ça va amener une peau jaunâtre. Un manque de Ranjaka Pitta, ça va entraîner de l'anémie et de la fatigue. Sataka Pitta, on a dit que c'était la mémoire. Donc, ça peut amener des... Si en excès, ça peut amener des vertiges, et en manque, ça amène des problèmes de concentration. Alochaka Pitta, c'est la vision. Ça peut amener en excès un blanc de l'œil jaune, et en manque, ça amène tous les problèmes de vision. La myopie, la stigmate. Brajaka Pitta, c'est la peau, donc en excès, brûlure de la peau, température haute. Et en manque, c'est l'hypothermie, le froid, la peau blanche. Donc on voit que chaque dosha peut amener des problèmes s'il est en excès ou en manque, mais les sous-doshas aussi. Donc là, je vous l'évoque, hein, vous allez dire, oh là là, elle nous dit beaucoup de choses là en une heure, mais c'est important de voir ça. Après, vous pouvez prendre un livre d'Ayurveda et d'aller voir ces classifications, vous aurez des petites idées en fait. Hein. Hein, c'est des études qui durent 5 ans et demi, les doshas, voilà, il nous faut 2-3 ans. Donc...
Et avec tout ça, je suis étonné que ça ne dure que 5 ans et demi, parce que c'est quand même assez, très très pointu.
Oui, alors 5 ans et demi de théorie, mais après ils ont des années dans les cliniques, des années de pratique. Donc ça dure 5 ans, et il y a des spécialisations aussi. Donc, certains ont aussi 10 ans
donc, 5 ans et demi, quoi. C'est un minimum et le début, en fait.
Voilà, c'est ça. 5 ans et demi, c'est vraiment le minimum. Ce que je n'ai pas dit, c'est les caractéristiques de Pitta. Les caractéristiques de Pitta, c'est huileux, percutant, la chaleur, quelque chose de léger, de souple et qui bouge rapidement. Donc ça, on reconnaît quelqu'un de Pitta avec la peau... une belle peau, hein, quelquefois, percutant parce qu'il va vite, parce qu'il est percutant au niveau de l'esprit. La chaleur, ça, on l'a dit, redit. La souplesse, la légèreté, ça vient peut-être de l'eau aussi qui est là. Et aussi la rapidité dans le mouvement, hein, ça, c'est l'action. Donc voilà. Alors, est-ce qu'il y a encore d'autres choses que j'ai pas dit? Je sais pas. Ce que je vois là, si tu as des questions, ce que je vois là, ce qui est très bon pour Pitta, c'est l'aloe vera. L'aloe vera est très bon pour faire descendre Pitta, comme les graines de fenouil, comme la coriandre, comme amalaki, c'est les groseilles indiennes. Ce qui est bon pour Pitta aussi, c'est l'huile de coco, hein, pour faire descendre le feu de Pitta. Vous faites des massages à l'huile de coco, et bien c'est génial, quoi, en fait.
Je me rappelle que tu m'en avais fait un, c'est très apaisant.
Voilà.
Les
massages à l'huile de coco, c'est vraiment ça. Ça apaise, ça tranquillise. Ça... Et Pitta a besoin, hein, d'être tranquillisé, il a besoin d'être apaisé, Pitta, quoi. Même s'il va toujours dans l'action.
Oui, mais si ça peut permettre de le ralentir un peu, c'est très bien.
Voilà, c'est vrai. Si ça peut le permettre de ralentir un peu, c'est vraiment bien. Donc, voilà. Alors, je crois que j'ai dit l'essentiel de ce que je voulais vous dire. S'il y a encore d'autres questions, même, voilà, on peut vous dire aussi ce qu'on fait, là, si vous voulez en savoir plus. Hein, si vous voulez en savoir plus, donc... prochainement, on fait des ateliers des après-midi. Donc, alors bientôt, il y a un atelier avec une psychologue qui va être plus sur la confiance en soi, où on parlera aussi d'Ayurveda. Il y aura du yoga, il y aura de la méditation. Et avec Amadi, le 30 juin, sur Angers, l'après-midi, eh bien, on va faire une après-midi sur les chakras.
Oui.
Hein? Donc Amadi, qui est médium et
magnétiseur. Plus magnétiseur que médium, hein.
Oui, mais il est médium aussi.
Oui. Eh bien, je ne sais pas de quoi on va... Enfin, si, je sais de quoi on va parler. Moi, je pense qu'on va parler de ce qu'est un chakra, de comment l'ouvrir, quels aliments lui conviennent, quels cristaux lui conviennent, comment justement le nettoyer et faire qu'il soit harmonisé, harmonieux avec les autres.
Voilà.
Il faut savoir qu'un chakra qui a trop d'énergie va toujours en donner aux autres.
D'accord.
Ça s'équilibre. Mais c'est bien de le nettoyer, d'apprendre à bien l'ouvrir. Justement, c'est ce que je fais tout le temps pour pouvoir faire mes soins en magnétisme. J'ai besoin que ça circule.
Voilà.
Et au bout d'un moment, quand on le fait souvent, eh ben on sent quand ça ne va pas ou que ça bloque un petit peu et qu'il y a besoin de travailler dessus. Et on voudrait au moins donner les bases pour apprendre à l'ouvrir, l'harmoniser et s'en servir.
Voilà, c'est ça. Donc, on va travailler sur les chakras. Alors, moi, j'apporterai, Madi va apporter le côté donc magnétiseur, énergie, etc. Moi, j'apporterai mon regard plus avec l'Ayurveda, en lien aussi avec les doshas. Et puis, aussi avec le yoga et la méditation, Elle m'a dit, pourra faire une méditation sur les chakras. Moi, je pourrais faire un cours de yoga pour amener aussi à ouvrir certains chakras, les postures qui peuvent apporter, amener à ouvrir les chakras. Et ça sera un après-midi. Donc, on demande 30 euros pour l'après-midi. Ça va passer très vite. On aura plein de choses à vous dire. Et puis, autrement, on fait aussi des stages. Donc, on a deux stages en perspective. Donc, un en juillet, dans un super lieu.
Oh, magnifique, magnifique lieu.
Dans un château où on travaillera à la fois le yoga, la méditation, le magnétisme. Amadi nous a fait l'autre jour travailler sur les arbres, c'était la découverte.
Parce que c'est une très belle énergie et qui permet de se soigner et de se guérir.
Oui, c'était magnifique. Et puis aussi l'après-midi, donc avec l'Ayurveda, avec les bases, comme je fais là dans les émissions. Mais on a plus le temps. Hein. Et puis aussi des massages. Hein. On revoit des soins ayurvédiques.
C'est un excellent moment aussi.
Ah oui, c'est bien aussi.
Donc, aussi expliquer, on dit toujours ouvrir un chakra, il n'est jamais vraiment fermé, c'est qu'on est mort s'il est fermé. Mais l'harmoniser et expliquer pourquoi parfois il peut être bloqué, ce qui amène en fait plein de problèmes dans la vie. Et comment le débloquer justement et l'ouvrir et qu'il soit ouvert et qu'il rayonne.
Voilà, c'est ça.
C'est le but.
Et c'est vrai que voilà, c'est ça. Et en général, les gens qui sortent, ça dure 3 jours et demi, du jeudi midi au dimanche midi. Les gens qui sortent des stages, ils sont voilà, il y a des choses qui se passent quoi. Hein. Alors voilà, donc ça c'est en juillet, c'est le week-end du 14 juillet.
Je veux bien te croire, je suis sortie du stage, j'avais plus envie de manger pendant plus de 15 jours et je n'ai pas mangé.
Voilà, bon alors ça se passe pas pour tout le monde, chacun.
Non, ça c'était...
Voilà, mais Amadi, déjà il a tout un travail sur lui, une évolution, etc. Donc lui ça s'est manifesté comme ça, mais il y en a d'autres qui se sentent mieux, qui se sentent plus allégés, qui... Voilà.
Qui se sentent mieux, c'était tout le monde. Enfin j'ai eu des retours, tout le monde était super content, se sentait plus ancré, mieux. Et comme si on avait pris beaucoup de recul par rapport à plein de choses et du coup on est plus lucide.
Voilà.
Et ça j'ai adoré.
Voilà, ouais, ça c'est chouette. Et il y a aussi des thérapeutes qui interviennent. Et puis il y a un stage fin août dans un beau lieu aussi. Il n'y aura pas la piscine, mais c'est un très très beau lieu. Et on aura la chance, la personne qui me loue ce lieu, en fait, fait du Qigong, je crois. Et elle pourra aussi faire des interventions en Qigong. Donc voilà. Donc voilà, on va terminer en chantant un mantra.
Je vais essayer, j'ai une phrase que j'ai beaucoup de mal à dire.
Vas-y, dis-moi.
Ah ben, il y a à peu près 25 lettres dans l'amour, donc là, je vais avoir du mal, mais je vais essayer.
Alors, peut-être qu'on va pouvoir faire celui qui est plus facile. On ne va pas faire le mantra de l'étude, on fait le mantra, tu sais, Gayatri Mantra.
Ah oui, celui-là, je l'ai un peu plus mantra, pratiqué, mais voilà, je ne suis pas parfait encore.
On pratique beaucoup dans les stages, le Gayatri Mantra. Je ne sais pas... Alors, attends, je vais le trouver... Alors, et autrement, si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à même envoyer des mails. Hein. Vous trouvez mon site facilement, Catherine Brault, Ayurveda Yoga Angers, ou Yoga Angers, vous allez me trouver. Et vous me posez des questions, je vous y répondrai, hein, sans problème. Et j'interviens aussi dans des stages en Inde. Hein. Que j'organise avec une agence et où c'est des cures ayurvédiques où on a des enseignements en ayurveda et on a aussi bien sûr du yoga et voilà avec des enseignements, une cure, etc. Bon alors maintenant nous allons chanter Gayatri Mantra pour terminer. Donc c'est un hommage à la nature et on demande au soleil, c'est le soleil, c'est la lumière, de nous éclairer de sa lumière, de nous éclairer de son énergie. Om Bhurbhuva Svaham. Om Bhurbhuva Svaham. On le fait 3 fois. Om Bhurbhuva Svaham. Encore une fois. Om Bhurbhuva Svaham. Tat Savitur Varenyam. Tat savitu varenyam Bhargo devasya dhimahi Pargo de Vasya di Mari, di yo yo na prachodayat, di yo yo na prachodayat. Om Shanti Shanti Shanti. Om Shanti Shanti Shanti. Om Tat Sat. Om Tat Sat. Alors voilà, donc on va arriver au terme de cette émission. Donc j'espère que vous avez ressenti un peu ce que c'est que cette énergie de Pitta, du feu. Et puis j'espère aussi que vous allez aller chercher, hein, ces émissions sont là pour que vous alliez vous documenter avec une petite base. Voilà, et la prochaine fois, donc nous allons aborder le dosha kapha, le dernier qui est terre et eau, hein, avec eau en premier. Et comme Amadi vous a dit, eh bien, vous pouvez passer, hein, d'un dosha à l'autre et en fonction aussi de votre vie. Hein, du lieu où vous êtes, etc. Il peut y avoir un dosha, comme c'est toute une histoire de proportion, il peut y avoir un dosha qui augmente, ou qui s'affaiblit, ou qui diminue. Et quand on a une bonne écoute de soi, quand on fait du yoga, quand on fait de la méditation, eh bien on ressent. Et je pense que toi qui fais aussi un travail sur toi et qui est bien à l'écoute de toi, eh bien,
j'ai appris.
Tu as appris. Et c'est vrai que j'aimerais bien aussi que. Alors, pour l'Ayurveda, il y a des hommes, hein, bien sûr, qui s'intéressent, beaucoup de médecins ayurvédiques en Inde. Mais c'est vrai qu'en Europe, et il y a beaucoup de yogis en Inde, et il y a quelques yogis en Europe, mais dans mes cours de yoga, il y a une majorité de femmes. Et je suis un peu désolée de voir, au stage, par exemple, hein, vous étiez pas beaucoup d'hommes, quoi, hein.
Oui, tu étais désolée, mais moi, j'étais bien. J'étais à peu près tout seul. Au milieu de 10 femmes, mais ce serait bien qu'il y ait quelques gars en plus quand même.
C'est vrai que, et je peux vous assurer que tous les hommes qui viennent à mes stages, s'ils sont célibataires, ils trouvent l'âme sœur. Ça, c'est clair.
Bon, ou au moins une belle amitié.
Ou au moins vraiment. Une belle amitié, vraiment. Donc voilà. Écoutez, je vous laisse et je vous dis au mois prochain, au troisième vendredi du mois prochain. Voilà, je vous souhaite une très bonne nuit et je vous dis à très bientôt. Au revoir, bonne soirée, au revoir. Thank you.